Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de SauceKiller. Nouveau podcast ou plutôt nouvelle interview d'une personne que tu connais certainement déjà si tu t'intéresses de près au sujet de la gestion du temps, de l'efficacité et de l'organisation. Cette personne, c'est Mathieu Desroches. Mathieu Desroches du blog éponyme et du podcast Productif au quotidien, dans lequel je suis d'ailleurs récemment passé pour parler du lien entre sommeil, chronobiologie et efficacité. Alors, si écouter ce podcast, cet épisode-là t'intéresse, tu trouveras un lien dans mon propre podcast en description avec d'autres liens, comme le lien vers mon guide des 7 biais cognitifs à connaître pour mieux décider, ainsi que deux liens qui te renverront directement vers les ressources dont Mathieu parle durant notre échange. Maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce qui va t'intéresser toi dans notre échange? Pourquoi tu dois l'écouter? En quoi ce que Mathieu et moi allons te partager va t'aider à être plus performant au quotidien? Alors, quand j'ai préparé mon échange avec Mathieu, quand j'ai établi mes questions au préalable, je n'ai pas voulu tomber dans la facilité, tomber dans le piège de parler uniquement de gestion du temps et de productivité avec lui. Mathieu, de son côté, depuis déjà plusieurs années, donne tellement de conseils sur ces thématiques dans tous ses contenus, que ce soit ses podcasts, ses posts LinkedIn ou encore ses articles de blog. Je voulais pas en fait lui infliger le fait de voir encore une fois se répéter, de répéter ce qu'il a déjà dit des centaines et des centaines de fois, voire des milliers et des milliers de fois. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est amener Mathieu sur cette thématique de la prise de décision, cette thématique mensuelle que nous traitons ensemble actuellement, cette thématique du cerveau qui n'est pas fait pour décider efficacement, cette thématique de la nécessité pour toute personne qui veut performer au travail, qui veut surperformer au travail, d'avoir à disposition une bibliothèque de matrices, de modèles mentaux pour prendre des décisions qui sont justes, rapides et ça de façon récurrente. Alors, je dois t'avouer que sur le coup, j'étais pas spécialement sûr de moi. Je me posais la question suivante, et si Mathieu n'avait rien à me dire là-dessus? Si c'était un domaine qu'il n'avait pas encore creusé, pas encore pris le temps d'aborder en détail et en profondeur? En effet, l'expertise de Mathieu, je la rappelle rapidement, c'est la gestion du temps, l'efficacité et la productivité, et non pas les mécanismes du cerveau comme moi. Eh bien, crois-moi que j'ai été littéralement scotché par ses réponses. Tous mes doutes ont été levés dès qu'on a commencé à échanger avec Mathieu. Mathieu m'a partagé, et donc vous a partagé par voie de conséquence, ses méthodes, ses outils et ses propres modèles mentaux qu'il utilise au quotidien pour mieux décider. Et surtout, chose très intéressante, Mathieu a tissé des liens justes, des liens précis et des liens très clairs entre la productivité, l'efficacité et la prise de décision. Autrement dit, en plus de favoriser la prise de bonnes décisions, la mise en place de modèles mentaux et de matrices dont j'ai commencé à te parler la semaine dernière en podcast, va te permettre d'être plus efficace et plus productif jour après jour et donc te permettre, par voie de conséquence, d'atteindre ce niveau de surperformance dont je te parle chaque semaine. Donc, il n'y a que des avantages à mettre en place cette bibliothèque de matrices et de ressources dont j'ai commencé à te parler. Ces avantages, on commence donc à en parler ensemble durant notre échange et je te laisse donc profiter tranquillement de mon dialogue avec Mathieu Desroches. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur mon podcast Mathieu Desroches. Bonjour Mathieu.
Bonjour Jérémy.
Alors Mathieu, pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement en quelques mots, en quelques lignes, sachant que je l'ai fait précédemment moi de mon côté?
Oui, donc je m'appelle Mathieu, je suis coach formateur en productivité. Productivité qui est un terme large que j'utilise pour désigner tout ce qui concerne la gestion de ton temps, ton organisation, tes disciplines de vie, bref, une approche holistique comme toi tu parles beaucoup sur ton podcast. Comment c'est être ça. Plus efficace, plus productif dans son quotidien pour maximiser nos résultats. C'est ce que je fais. J'ai un blog, un podcast, beaucoup de ressources, des formations sur le sujet et j'accompagne des gens, là, que ce soit en coaching ou lors de formations en entreprise depuis maintenant 2015.
Et tu as un léger accent. D'où viens-tu, Mathieu?
Oui, tout à fait. Je suis québécois. Aujourd'hui, j'habite dans la région de Montréal, mais à la base, moi, je suis né en campagne et d'une région où est-ce que, justement, les gens au Québec ont un très fort accent. La ville de Saint-Hyacinthe, peut-être qu'il y a des Québécois qui nous écoutent et qui vont se situer. Donc, c'est pour ça, c'est de là que j'ai hérité de mon bel accent.
En tout cas, Montréal, très belle ville. Je connais pas la ville que tu as citée, mais Montréal est une très belle ville, en tout cas, pour l'avoir visitée. Ah,
super.
Alors Mathieu, j'ai voulu t'inviter sur le podcast pour une simple et bonne raison, c'est pour parler ensemble de prise de décision. Alors effectivement le lien de base entre efficacité, productivité et prise de décision peut être un peu flou, mais en fait ma définition de l'efficacité pour moi est la suivante, c'est le fait d'être capable de prendre beaucoup de décisions, tous les jours, de façon régulière et surtout de façon pertinente. Est-ce que tu rejoins un peu cette définition-là toi, de ton côté?
Absolument. Je ne définis pas la productivité dans les mêmes termes que toi tu le fais, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que, dans le fond, l'efficacité, la productivité, c'est une capacité de prendre des décisions. Parce que moi, une des choses que j'enseigne toujours aux gens, c'est que la productivité ou la gestion du temps, ben en fait, plutôt la gestion du temps, tu ne peux pas réellement gérer ton temps. Mais par contre, tu peux prendre des décisions tous les jours de ce que tu vas faire avec ton temps. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on y pense, notre vie, notre quotidien, c'est une série de décisions rapides, comme tu le mentionnes, qu'on doit prendre. Accepter de faire, de se lancer dans tel projet ou non. Dire oui ou dire non. Est-ce que je travaille sur la tâche numéro 1 ou la tâche numéro 2? Quelle est ma priorité? À quel moment est-ce que je commence à faire tel projet? Est-ce que je le reporte à plus tard? Est-ce que je le fais aujourd'hui? Donc, quand on y pense, la productivité, la gestion du temps, c'est carrément de la prise de décision quotidienne, des micro-décisions.
C'est vrai que tu as raison, tu as fait une nuance qui est assez importante à noter, je pense. C'est le fait qu'on ne gère pas réellement son temps. On a tous 24 heures, point barre, c'est acté, c'est comme ça. Mais on choisit ce qu'on fait de ces 24 heures. La nuance est très importante, je pense, à noter. Et tu mets le mot sur des éléments que j'avais en tête et que je n'avais pas formulé. Je te remercie pour ça.
Moi, je dis souvent, c'est comme la gestion du temps, on devrait quasiment plutôt parler de gestion des activités ou plutôt gestion des priorités, en fait. C'est plutôt ça le terme exact.
Oui, c'est vrai, le terme est plus approprié, effectivement, au contexte et à la réalité des choses, bien sûr. Et du coup, toi, donc, cette définition-là que j'ai par rapport à la prise de décision, donc, qui est liée à l'efficacité et à la gestion du temps. Donc toi, tu le rejoins. Déjà, c'est super, on commence bien le podcast, c'est top. Mais le constat que j'ai fait de mon côté, c'est que beaucoup de personnes, quand on parle de gestion du temps, n'ont pas cette notion-là à l'esprit, mais ont plus cette notion de hack, d'astuce, de raccourci, de solution, un peu, toi, des bloqueurs sur Internet, des choses comme ça. Alors que pour moi, ces solutions-là, c'est plus des cerises sur le gâteau, si tu préfères. Et tant qu'on n'a pas atteint cette base-là, de savoir prendre des bonnes décisions au bon moment, savoir dire non, comme tu l'as bien dit, savoir quelle tâche faire plutôt que telle autre, pour moi, on peut pas réellement... comment dire, être productif au quotidien. Est-ce que tu rejoins également cet aspect-là, comme quoi les gens cherchent plus des hacks que des solutions réellement de base qui vont les aider réellement en profondeur, mais qui sont peut-être plus complexes à appréhender?
Tout à fait, tout à fait. Ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle discipline, on est tous un peu comme ça en tant qu'être humain, on cherche la facilité, la rapidité. Donc, c'est certain que c'est plus facile de mettre en œuvre un hack, une technique, une stratégie qui va te permettre d'aller plus vite. Sauf qu'en réalité, la clé de la productivité, c'est de faire ce travail de fond-là, à savoir quelle est la bonne chose que je dois faire. Ça te sert à quoi d'être super rapide, super efficace, super productif si au final, tu ne travailles pas sur la bonne chose? Si, par exemple, tu as pris une mauvaise décision de te lancer dans tel projet ou d'accepter telle proposition et que là, ben du moment que tu t'es embarqué là-dedans, tu t'es engagé et que là, tu essaies de mettre en œuvre tous les hacks, toutes les stratégies de productivité, ben oui, peut-être que tu vas être efficace pour accomplir ta tâche, mais ultimement, est-ce que la tâche, t'aurais dû la faire tout court? Est-ce que ça aurait pas été préférable de faire autre chose? Donc, ça revient à la prise de décision. Prendre de bonnes décisions sur la manière dont tu vas investir ton temps et ton énergie est plus important, selon moi, que les hacks, les techniques et les stratégies.
Il y a une métaphore que j'emprunte à Olivier Roland, je pense que tu le connais, que tu le suis un peu, parce qu'il parle beaucoup de productivité et d'efficacité sur YouTube, notamment, qui est la métaphore de l'échelle. Il dit effectivement, être productif, être efficace, c'est comme monter un mur avec une échelle. Mais si tu passes pas ton échelle sur le bon mur, ça sert à rien. Tout simplement.
Ouais. Oui,
j'aime beaucoup
absolument.
Cette métaphore-là qui est très parlante et qui est très visuelle et que tout le monde réellement peut s'imaginer, tu vois. Donc effectivement, aujourd'hui, les gens cherchent plus ces hacks-là, ces choses-là. Et souvent, c'est une notion qui vient assez généralement quand j'échange avec des personnes, soit mon entourage, soit les personnes qui m'appellent, soit les accompagnements ou autres, peu importe. C'est que les gens ont tendance à se fier énormément à leur intuition. Qu'est-ce que t'en penses ? Personnellement, moi, je suis plutôt contre cette démarche d'intuition parce que pour moi, le cerveau est assez biaisé au quotidien. Beaucoup de biais existent, ça j'en parle en podcast. Et donc, souvent, quand on se fie à notre ressenti, à ce qu'on appelle souvent le cœur plutôt que la raison, j'ai tendance à croire qu'on se plante dans 90% du temps. Et qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ben ça, je pense que c'est justement un des défis numéro un que moi, je rencontre en tant que coach dans le domaine. J'ai beaucoup de gens qui... ont cette tendance-là à suivre davantage leur intuition que leur raison. Moi, dans mon langage, en tout cas ici au Canada, on parle de suivre son feeling. Tu sais, c'est un terme anglophone, feeling pour émotion, intuition. Feeling nous rapporte aussi, je trouve, le mot anglais est encore plus, plus précis selon moi. Tu sais, feeling, ça nous rapporte à l'émotion, justement. Et gérer sa vie, gérer son quotidien ou prendre des décisions selon son émotion ou son feeling, son intuition. Ben, effectivement, je ne crois pas que c'est une solution à long terme. Je pense que sporadiquement, oui, parfois, il y a des contextes bien uniques, que oui, il faut y aller selon l'intuition et tout ça, mais dans le quotidien, c'est beaucoup plus stratégique d'y aller de façon rationnelle, de suivre un plan de match et d'exécuter le plan de match. Moi, une analogie que je donne souvent quand j'enseigne sur ce sujet-là, c'est que prenons l'exemple d'une équipe sportive, OK? En France, il y a le foot, je pense que vous aimez beaucoup ça. Prenons un exemple d'une équipe de foot. Ben, ce qui arrive, c'est que le coach, l'entraîneur, au début du match, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dicter, il va élaborer un plan de match. Et il va le dicter aux joueurs. Il va donner le plan de match aux joueurs. Et l'objectif des joueurs pendant la partie, c'est tout simplement d'exécuter le plan d'action que le coach a dicté. Et si les joueurs suivent à la lettre les conseils du coach, normalement, ils ont des très bonnes chances de remporter la partie. À l'inverse, si le coach fait un plan, donc il se sert de sa raison, et que les joueurs, une fois sur le terrain, ils vont selon leur intuition, selon leur émotion, ben là, ils peuvent faire toutes sortes d'erreurs en cours de partie. Parce que parfois, il y a de l'animosité, il y a une rivalité, il y a des frustrations, l'arbitre a pris une mauvaise décision et là, les joueurs sont frustrés, donc on déroge du plan de match et ça, ça va les mener à la défaite. Donc moi, je trouve que c'est une belle analogie pour illustrer ce principe-là. T'es beaucoup mieux de suivre le plan de match de ton coach que d'essayer d'y aller selon ton intuition au jour le jour.
Pour reprendre cette notion de plan de match, comme tu le dis très bien, aussi, un élément qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que le plan de match, lui, il est stable, il est fixe, peu importe le contexte dans lequel tu es. Contrairement aux émotions, contrairement au feeling, qui, elles, varient. Tu dors mal, forcément, tes émotions vont être impactées. Mmh. C'est logique, le sommeil impacte la qualité des émotions. Tu subis une rupture. Tu romps avec ton copain, avec ta copine, avec ton partenaire, ta femme ou autre, peu importe. Pareil, tes émotions vont être impactées. Tu t'es stressé. C'est la même chose. Par contre, si t'as un plan de match, si t'as un protocole, une procédure, là, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu vas être, la procédure est la même, tu la suis et tu décides en fonction de la procédure. Et je pense que c'est plus efficace par rapport à ça.
C'est certain. Oui, moi, peut-être une petite parenthèse là-dessus. Tout à fait d'accord que le plan de match devrait avoir la priorité, selon moi, sur l'intuition. Mmh. Ceci étant dit, tu mentionnais des exemples, rupture et des trucs comme ça. Mauvaise nuit de sommeil. Je pense qu'il faut aussi avoir une approche humaine quand on parle de gestion du temps, de productivité. Une autre erreur qui est un autre extrême, c'est des gens qui sont dans l'autre. Disons, d'un côté, tu as les gens qui se fient seulement à leur intuition et ils sont réticents à tout ce qui est plan de match, planification. De l'autre côté, tu as les gens qui font des plans de match, des plans d'action et qui sont ultra rigoureux, à la limite, à un point même qui sont carrément inflexibles. Ça, je pense que c'est aussi un extrême qui peut être néfaste parce que dans le sens, on est humain, l'être humain est une créature d'émotion et il faut parfois aussi tenir compte de ces choses-là. Tu viens de vivre une rupture amoureuse, ben même si tu t'étais fixé un objectif de, je sais pas moi, d'écrire un livre dans 3 mois, c'est possible que finalement, ce serait plus sage de reporter ton projet de 1 ou 2 mois. Question de faire le point sur ta vie, gérer tes émotions et revenir un peu plus fort un coup que tu vas traverser cette crise-là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que un des modèles que j'utilise moi au quotidien, je pense que tu en as toi aussi de ton côté, justement, prend en compte cette notion d'état d'esprit. En fait, j'ai un modèle, une trame qui est précise, qui est faite sur un logiciel dont je me sers au quotidien, où quand j'ai une décision à prendre, tout simplement, j'ai une trame qui est établie et qui me demande, au début, grosso modo, quel est mon état d'esprit actuellement à l'heure à laquelle je veux prendre cette décision-là, toi. Et si l'état d'esprit en question, justement, est influencé par une, je sais pas, une complication au niveau du couple, par une nuit de sommeil un peu catastrophique, par du stress particulier par rapport à un événement familial ou autre, peu importe la raison, je fais en sorte de le noter noir sur blanc et de me dire je reviens demain ou après-demain ou dans une semaine, peu importe, selon la gravité de l'événement, sur ce plan-là, pour voir si ce que j'ai établi sous le coup de l'émotion est réellement pertinent ou non, tu vois. Mm-hmm. Je fais une démarche en deux temps. Une démarche réellement sous émotion, voir ce qui ressort potentiellement de mon esprit, sans passer à l'action. Et une démarche après de prise de recul, de me dire, ok, là j'étais effectivement dans un contexte particulier, pas dans mon état naturel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec 3 jours de recul par exemple, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut réajuster ou non certains éléments, tu vois?
C'est très bon. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi de laisser mûrir ses idées.
C'est dans ça. Sens,
l'erreur que les gens font, les gens qui se fient seulement à leur intuition, c'est qu'ils sont spontanés. Donc, aujourd'hui, ils se lèvent, ils ont eu une idée, disons, pour leur entreprise. Et là, tout de suite, on part sur la nouvelle idée. Donc là, ça devient la priorité immédiate. Ça prend le dessus sur nos objectifs qu'on avait déjà établis. Et là, on se lance dans le truc pour finalement réaliser 3 jours après que, finalement, c'était pas une bonne idée, ça fonctionnera pas, ça coûte trop cher, etc. J'ai pas envie de le faire. Vaut mieux, comme tu dis, j'aime beaucoup ton approche. T'as une idée de génie, ton intuition, tes émotions te suggèrent quelque chose. Laisse le truc mûrir. Laisse-lui un peu de temps. Réfléchis. Est-ce que l'idée va faire son temps? Une bonne idée, ça va toujours traverser le temps. Si l'idée est bonne aujourd'hui, elle va l'être dans 3 mois aussi. Donc, il n'y a pas de panique. Pas obligé de tasser ton planning tout de suite et réagir immédiatement. Vaut mieux laisser les choses, prendre le temps de se poser, évaluer, réfléchir. Et si, effectivement, ça vaut la peine, ça semble être bon, être la bonne chose à faire, ben, on fonce au bon moment, au temps voulu.
J'ai recité ta phrase parce qu'elle est très belle. Donc, une bonne idée va toujours traverser le temps. Effectivement, c'est une très bonne phrase à avoir à l'esprit, effectivement, je pense. Ouais. Mm-hmm. Donc, peu importe les émotions, certes, tu es sous le coup de la colère, tu notes ton idée. Si elle est encore présente d'ici 2 jours, 3 jours, 1 mois, c'est qu'elle est bonne. Là, tu peux y aller. Et l'idée aussi, c'est de mesurer un maximum ton idée, voir si elle marche ou non, tu vois. Écrire un livre, par exemple, je me fixe d'écrire, allez, 10 pages par semaine. Point barre. Ça, c'est mesurable, c'est précis, je peux y aller. Réellement, on peut avoir un élément quantifié par rapport à ton idée. Typiquement, moi, tu vois, en ce moment, j'essaye un peu de me faire connaître via LinkedIn. Et je me dis, je fais 5 commentaires par jour, du lundi au dimanche, jusqu'à la fin de l'année. Et après, je mesure voir si ça porte ou non. Voilà, moi, je sais, d'ici fin de l'année, si ça marche, si c'est rentable pour moi, je continue en 2021. Si ça ne l'est plus, j'arrête à 100%. Au moins, réellement, j'ai une échéance qui est fixe aussi par rapport à ça. C'est important, je pense, aujourd'hui, d'avoir cette notion d'échéance dans la prise de décision. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs.
Mm-hmm. Alors, tout à fait. C'est très bon, dans le sens que tu sais que tu vas faire telle action pendant telle durée, la durée que tu as définie. Tu vas te poser rationnellement pour évaluer les bénéfices, les résultats au terme de la période fixée. Et ensuite, tu vas prendre une décision éclairée en fonction des éléments que tu as. Donc, est-ce que ça l'a apporté quelque chose? Est-ce que ça l'a permis que je sois mieux connu, etc.? Si ça l'a rien apporté du tout, ben on arrête et on passe à la prochaine chose, tu sais.
Exactement, ouais. Et pour en revenir rapidement à cette notion d'émotion versus rationalité, en quelque sorte, je sais pas si tu as connaissance du livre qui s'appelle Système 1, Système 2.
Non, ça me dit rien.
Ça te parle pas, ok. En fait, je fais rapidement un aparté dessus parce que c'est très intéressant et je pense que ça peut t'intéresser. C'est un livre dans lequel l'auteur, qui a été, je sais plus ce qu'il a eu comme récompense, un prix Nobel peut-être, je sais plus trop, peu importe, c'est un détail, explique comme quoi le cerveau fonctionne en deux temps. T'as le cerveau, le système 1, qui est vraiment dans l'urgence. Ça, c'est issu, grosso modo, de notre évolution. Tu vois, quand on était homme préhistorique, forcément, chaque décision pouvait potentiellement nous coûter la vie, donc il fallait réagir rapidement. Et à l'inverse, on a un système 2 qui, lui, est réflexif, qui demande plus de temps, qu'il faut chercher réellement à provoquer, mais qui permet généralement de trouver la bonne solution par rapport à un contexte précis. Alors, effectivement, dit comme ça, c'est un peu flou, j'en ai conscience. Je peux te faire un petit exercice, tu veux, en direct, pour te montrer à quoi ça ressemble.
Vas-y.
Je vais te poser une question. Typiquement, devant toi, t'as un lac. D'accord, tu le visualises, un lac assez bleu, magnifique, il fait beau temps, super. Dessus, tu as des nénuphars. Et en fait, un nénuphar, à chaque fois, il va doubler en volume chaque jour. Si les nénuphars mettent 48 jours à couvrir tout le lac, en combien de temps ils couvriraient la moitié du lac? La réponse, c'est quoi, selon toi?
24, quoi?
Voilà, là, t'es en système 1, tu vois. T'as divisé 48 par 2, sauf que la réponse, c'est 47. Parce que forcément, s'il a 50%, il double, hop, après, il a 100%, tu vois, dès le lendemain.
Ok.
Toi, typiquement, je te fais passer du système 1 au système 2. Système 1, forcément, c'est logique, on divise par 2, 48. Là, on est en plein dans l'émotion, du coup, en mode non réflexif. Par contre, quand on réfléchit un peu, là, je t'ai pas laissé le choix, je t'ai mis un peu de stress, façon de parler, pour te dire réponds, Mathieu. mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'au final, la réponse est 47. Mm-hmm. Et typiquement, ça, c'est intéressant à savoir, je pense, en matière de prise de décision aujourd'hui. Mm. Parce que ouais, si absolument. On est tout le temps dans cette notion de la solution, c'est ça, il faut que je le fasse dès maintenant, sans me poser réellement, sans prendre le temps de prendre du recul, je fonce, souvent on se plante. Par contre, si on a un protocole établi, comme on l'a dit justement précédemment, là, on peut se dire effectivement, ah non, en fait, non, c'est pas 24, c'est 47. Mm. Et là, du coup, je pars sur le bon chemin, je perds pas de temps, tu vois, et je fais pas d'erreur.
C'est une super illustration, effectivement. C'est tout à fait vrai dans le sens, dans le quotidien, et comme tu l'as mentionné, je pense que le système 1 que tu disais, axé sur l'urgence, ben on est carrément là-dedans, là, surtout, ben même tout le monde, entrepreneurs, salariés, on fonce tête première. Et le gros défi qui nous amène parfois à prendre des mauvaises décisions, c'est justement ce que tu as mentionné, c'est qu'on prend pas le temps de s'arrêter, remettre les choses en question, pour peser le pour et le contre. Souvent, on fonce parce qu'il semble y avoir une notion d'urgence, et pressé par l'urgence, ben c'est « OK, go, je dois le faire tout de suite, le plan de match prend le bord et je me lance dans tel truc. » Effectivement. Et tu m'as bien eu avec ta question, d'ailleurs. Moi, j'ai répondu tout de suite. En fait, tu me poses la question, je suis pris au dépourvu. On s'était pas parlé avant le podcast, d'ailleurs, pour cette question-là. Donc oui, moi, j'ai pas pris le temps de réfléchir. Si on divise par deux, ça fait 24. Mais c'est un bon exemple.
Ridiculisé, c'était pas eu tout le but, mais réellement, c'est mettre face au fait accompli. Et pareil pour les auditeurs. Quand on est réellement pris dans l'urgence, quand on est pris par un stress, par une pression, des fois qu'on se met soi-même, effectivement, on n'a pas le temps de réfléchir réellement. On donne la réponse intuitive, qui est souvent la mauvaise. Encore une fois, je m'excuse d'avoir piégé en direct dans le podcast, mais je pense que c'est réellement un exercice réellement qui est concret, qui nous montre réellement la différence entre le système 1 et le système 2. C'est intéressant de l'avoir à l'esprit comme ça. Moi, il y a une méthode que j'aime bien mettre en place, tu vois, pour justement prendre le temps de prendre du recul, c'est de verbaliser précisément un problème quand j'ai une décision à prendre. Je me suis rendu compte, après des études l'ont confirmé bien évidemment quand j'ai fait des recherches, mais qu'en évoquant un problème à voix haute, en le couchant sinon sur papier, on a d'autres pistes de réflexion qui se mettent en place. Donc on comprend mieux le problème auquel on est, on fait face, si tu préfères, et donc on peut réellement le traiter différemment, plus que quand uniquement là dans l'esprit, et il cogite un peu dans une tête, tu vois, sans l'exprimer réellement verbalement, même à personne, juste à soi-même. Est-ce que t'as déjà vécu ça de ton côté pour savoir?
Ben en fait, tu veux dire, es-tu que j'ai bien compris la question, de comme préciser en quelque sorte son processus là, de réflexion, là, dans le sens
d'écrire les idées, haute,
peser le pour et le contre par écrit.
C'est ça, le coucher réellement, le mettre réellement en évidence, soit par oral, en parlant soi-même à voix haute, tout seul, peu importe, soit en l'écrivant.
Absolument. Ben, en fait, je sais qu'une de tes questions plus loin, c'était « Quels sont mes outils de prise de décision? » Bon, on y arrive.
C'était ma transition.
On devance la question, mais...
C'était ma transition.
Un de mes outils principaux, c'est justement d'écrire mes questionnements. Je sais que toi aussi, je pense, tu utilises un certain journal personnel.
Oui,
donc
tous les
moi,
jours.
Ça fait quand même partie de mes disciplines hebdomadaires. Je ne le fais pas systématiquement tous les jours, mais j'écris dans mon journal chaque fois que j'ai besoin de clarifier mes pensées. Et notamment ben, tout ce qui est prise de décision. Moi, là, les grandes décisions de vie que j'ai eu à prendre sont tous couchées sur papier dans mon cahier de notes. D'ailleurs, en 2020, petite anecdote personnelle, j'ai eu la grande décision à prendre, à savoir est-ce que je quittais mon job de salarié pour me lancer à temps plein en tant qu'entrepreneur. Évidemment, il y a beaucoup de pour et de contre, dans le sens un emploi salarié amène une sécurité financière, avec un salaire fixe, des avantages sociaux, tout le côté relationnel hein, d'avoir une équipe. Moi, j'étais en position de leadership, j'étais responsable d'un département, donc il y a une certaine reconnaissance qui vient avec le travail. J'aimais aussi mon travail. Et là, à un moment donné, j'étais devant la décision, est-ce que je quitte pour me lancer à temps plein sur mes affaires ou est-ce que je continue? Et dans mon journal de début d'année, parce que moi, j'utilise un journal par année, donc... au début de l'année, je m'achète un nouveau cahier pour écrire. Et c'est drôle parce que si je retourne dans mes notes que j'ai écrites en début d'année, ben je vois tout le processus de réflexion. Donc là, il y a des pages
c'est
et en fonction de moi. Et je reviens sur l'autre point qui va être très bon. Le point de l'intuition et de l'émotion. C'est drôle parce que dans mon journal, il y a des journées où est-ce que je suis en mode découragé, en mode je sais plus quoi faire, je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres jours que c'est parfait, j'ai pris ma décision, je vais quitter dans 3 mois. Et là, finalement, 2 jours après, ah non, finalement, je pense que je vais attendre encore à la fin de l'année. Puis, tu vois, mon processus évolue. Et dépendamment de comment je me sens dans mes émotions cette journée-là, ma décision est influencée par ça. Donc, carrément, le fait d'écrire pour genre préciser ses pensées et essayer de prendre une décision éclairée. Moi, je suis vraiment un adepte de cette stratégie, et je la conseille à tous nos auditeurs là.
Et l'autre avantage que je trouve par rapport au fait d'avoir un journal, alors qu'on tient tous les jours ou non, peu importe, c'est un détail. L'autre avantage, c'est aussi de pouvoir repérer un peu les patterns d'erreurs que l'on peut commettre. Typiquement, tu as fait une erreur il y a un an en arrière, tu vas pas t'en souvenir. Mais si tu as un journal que tu consultes potentiellement régulièrement, que tu balayes ou autre, si la situation se reproduit dans les semaines qui viennent, tu auras l'esprit d'erreur que tu as faite précédemment. Et justement, tu vas essayer de la contourner ou de l'éviter, de trouver une nouvelle solution pour faire face au problème auquel tu fais face. C'est super intéressant aussi, je trouve, de documenter un peu sa vie au quotidien et les décisions qu'on prend, ouais.
Je pense qu'une des clés, tu sais, pour que cet outil-là du journal soit vraiment bénéfique, c'est pas juste d'écrire régulièrement, mais c'est de retourner en arrière pour relire ce qu'on a écrit précédemment. Moi, j'aime vraiment ça. Tu vois, gars, je reviens sur mon exemple. Finalement, pour aboutir à ma conclusion, après 3 à 4 mois de doute, de questionnement, j'étais vraiment dans une impasse. Je savais pas est-ce que je quitte mon emploi ou non. Il y a toutes sortes de craintes. Finalement, j'ai pris la décision de quitter. Et c'est pas des blagues. Parfois, il m'arrive dans mon quotidien d'avoir des petites remises en question, à savoir, hey, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je viens pas de sacrifier, tu sais, des belles opportunités que j'aurais pu avoir? Est-ce que je risque pas de je sais pas, d'avoir des problèmes financiers parce que j'ai plus de salaire fixe? Et souvent, chaque fois que je me retrouve dans des périodes de doute, de remise en question, je retourne dans mon journal pour relire tout mon processus de prise de décision. Et à chaque fois, je retrouve l'assurance de me dire « Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Je sais que c'est ce que je devais faire. » Alors là, j'arrête, je mets de côté mes doutes, mes questionnements et je vais de l'avant.
Donc à nouveau, tu passes d'un état émotionnel à un état rationnel. C'est super.
Mm-hmm.
Ah, c'est une super démarche que tu as, je trouve. Et que j'ai également, du coup. Ok. Est-ce que tu as également d'autres outils à nous partager potentiellement, Mathieu, sur cette notion de prise de décision et de prise de recul par rapport à une décision à prendre?
Oui. Déjà, un outil, peut-être je pourrais te donner le lien. C'est un article de blog que j'ai écrit à ce sujet-là. C'est un modèle de prise de décision. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un modèle qu'on propose. Moi, j'ai fait une formation en gestion. Là, je suis comptable de formation et c'était un des modèles de prise de décision qu'on nous enseignait justement à l'école. Mais c'est quand même très pratique, très applicable à la vie personnelle. En fait, c'est un modèle très, très simple. Je vais essayer de le résumer à l'audio, mais nos auditeurs pourront aller voir l'article en question.
Je mettrai le lien en description du podcast.
Parfait. Donc, en gros, c'est 3 questions à se poser, tout simplement. La première question, c'est quelle est la décision que j'essaie de prendre? Donc là, vous notez ça sur papier. Donc, je reviens avec mon exemple. Dois-je quitter mon emploi pour me lancer dans mon entreprise à temps plein ou non? Ça, c'est ma décision. La deuxième question, ensuite, de ma démarche, c'est quelles sont les options qui s'offrent à moi? Dans ce contexte-ci, ce serait, j'aurais 3 options. Quitter complètement mon emploi et être à temps plein dans mon entreprise. L'autre option, ce serait garder mon emploi à temps plein. Ou la troisième option, qui serait un entre-deux, ce serait diminuer mes journées, tomber à temps partiel, donc 2 jours par semaine au boulot de salarié et 3 jours avec mon entreprise. Ça, ce serait mes 3 options. Et là, je commence à formuler ça. Donc, je pourrais me faire carrément 3 colonnes. Option 1, option 2, option 3. Et ma troisième et dernière question, c'est quels sont les avantages, inconvénients et considérations pour chaque alternative. Donc là, je prends, mettons, l'option 1 qui serait de garder mon emploi de salarié. Et donc là, j'élabore. Quels sont les avantages de garder mon emploi? Donc, je vais avoir un salaire fixe, des avantages sociaux, je vais conserver la reconnaissance sociale qui vient avec le titre que j'ai. Quels sont les inconvénients? Ben, en fait, les inconvénients, c'est que je n'aurai pas assez de temps pour travailler sur ma business, j'ai envie de plus de liberté, je ne veux pas être pris dans le salariat. Et quelles sont les autres considérations que je devrais tenir compte avec l'option 1? Donc, j'aime l'entreprise, j'aime mes collègues, ça va me manquer de ne plus faire partie de cette belle équipe. Donc ça, c'est la démarche tout simplement pour chaque option. On identifie avantages, inconvénients, autres considérations. Et là, à la fin de cet exercice-là, bien, ça te fait vraiment un beau tableau, un beau schéma où est-ce que tu as comme toutes les possibilités devant toi. Option 1, 2, 3, avantages, inconvénients, autres considérations. Et là, tu peux vraiment prendre une décision éclairée. Donc, cet outil-là, je ne l'utilise pas dans mon quotidien parce que c'est un outil qui demande vraiment, un investissement de temps. Mais je l'utilise chaque fois que j'ai des décisions de vie majeures à prendre.
C'est vrai que c'est presque une introspection au final comme outil.
Absolument. Et donc, c'est ça. Donc, les gens pourront aller voir sur mon blog. C'est un article que j'ai écrit. Il y a un document Word que vous pouvez télécharger pour faire l'exercice.
Et est-ce que tu mets des notes par rapport aux différents items que tu trouves dans ces tableaux-là? Par exemple, l'aspect social par rapport à mes collègues, c'est très important pour moi, du coup, c'est un coefficient 3. L'aspect, je sais pas, liberté, c'est encore plus important, c'est un coefficient 5. Et du coup, à la fin, parmi tes trois colonnes, tu as un chiffre qui se met en place, un résultat, un scoring, qui détermine factuellement et précisément en termes de notes quelle solution est la plus intéressante pour toi.
Absolument. Ben, moi, dans mon outil, je ne le mets pas, mais effectivement, je sais que ça, c'est un outil. En fait, ça serait rajouter même un bonus à la démarche en question, parce que oui, c'est important de numérer, ben, en fait, de quantifier le poids de chaque facteur. Donc oui, est-ce que mon indépendance, ma liberté est plus importante que mon salaire fixe que je gagnais?
C'est ça.
Si je valorise plus la liberté que le salaire, ben à ce moment-là, la liberté devrait avoir plus de poids, donc je devrais plus pencher vers la possibilité de quitter mon emploi à ce moment-là.
Parce que tous les critères, au final, ne se valent pas. Tout simplement, c'était pour mettre ça un peu en évidence. Ok, super. Toi, je rebondis par rapport à cet outil, la transition est super parce que ça demande du temps, comme tu l'as dit, ça demande une réelle introspection, en tout cas pour l'outil que tu viens de présenter à l'instant. Justement, le contre-argument qu'on pose souvent à cette notion de rationalité, de mettre des outils en place pour mesurer ses prises de décision, c'est le temps que ça prend. Souvent, les gens me disent que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps de faire ceci, pas le temps de faire cela. Est-ce que toi, dans tes formations, parce que tu enseignes le même type d'outils de ton côté, est-ce qu'on t'oppose ce type d'argument-là également?
Ça arrive, j'ai déjà entendu. Par contre, une des choses que je pense que les gens qui réfléchissent ainsi doivent se... En fait, une prise de conscience qu'ils doivent avoir, c'est... En fait, on revient au premier sujet qu'on a dit dans l'entrevue. Si au final, tu prends une mauvaise décision dès le départ, imagine le temps que tu vas perdre à travailler sur la mauvaise chose. Donc, est-ce que ça n'aurait pas valu la peine que tu prennes peut-être 5 minutes pour réellement définir est-ce une bonne décision ou non, est-ce la bonne chose à faire ou non, plutôt que de foncer tête première sans utiliser d'outils, sans te remettre en question, et après ça, peut-être perdre des heures et des heures à te lancer dans une tâche ou un projet qu'au final, tu te rends compte que tu n'aurais peut-être pas dû la faire du tout. Donc, tu vas perdre plus de temps à long terme de ne pas utiliser d'outils et de ne jamais te poser de questions que de prendre les quelques minutes nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois.
C'est une très bonne réponse et justement c'est assez drôle parce qu'on parlait ensemble d'immobilier juste avant notre échange parce que voilà tu veux investir et j'ai investi de mon côté du coup et il y a une notion qui est très importante en finance à avoir à l'esprit, t'inquiète pas c'est un lien avec ce que je viens de dire, c'est la notion de dépense contre investissement et justement ce temps pris en amont pour moi c'est de l'investissement, c'est pas une dépense, c'est pas une perte de temps,
c'est
un temps que tu vas investir par la suite, potentiellement en gagner par la suite. Et dans tous les cas tu vas en gagner, c'est sûr à 100%, parce que même si ta décision reste la même, ok, mais tu auras clarifié les choses. Donc quand tu vas passer à l'action, ce sera plus simple pour toi. Ton plan d'action sera établi, tu sais où tu vas précisément et tu sais quel but tu vas viser précisément pour justement mesurer ta progression ou ton objectif. Donc vraiment, c'est de l'investissement pour moi.
Un investissement, tout à fait. T'sais, pour moi, la planification, c'est de l'investissement. Investir dans son processus de prise de décision, s'assurer qu'on prend la bonne décision, c'est de l'investissement. Oui, ça peut paraître une perte de temps, mais ce n'est pas le cas parce que ça va nous permettre de gagner en efficacité par la suite. Et si tu me permets, peut-être juste, je vais donner un outil qui est très, très facile à utiliser. Et là, il n'y a pas d'excuse parce que tout le monde peut le mettre en pratique. Dans le quotidien, si vous avez, pour toutes les micro-décisions que vous devez prendre, disons, vous arrivez au bureau, vous avez une longue liste de tâches, vous avez 10 possibilités. Est-ce que je fais telle tâche ou telle tâche? Posez-vous la question. Et moi, j'aime vraiment établir ma to-do list du jour de cette façon-là. Je me pose toujours la question, si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi la seule et unique chose que je pourrais faire dans ma journée? Et là, évidemment, oui, on sait que dans une journée, souvent, on peut faire plus qu'une chose. Mais pose-toi la question, ce serait quoi la seule et unique chose? Et en te posant cette question-là, ça va automatiquement éliminer le superflu. Et moi, j'établis ma to-do list comme ça. Donc ça, c'est un autre modèle de prise de... un autre outil pour ma prise de décision. C'est que tous les jours, j'essaie de me poser la question, c'est quoi la chose numéro un que je pourrais faire aujourd'hui, si je pouvais en faire juste une? Et là, je mets ça en première position de ma to-do list. Ensuite, je continue. Donc là, je parcours encore ma to-do list et je regarde, OK? Et si je pouvais faire une deuxième chose aujourd'hui, seulement une autre, ce serait quoi? Et là, je prends la deuxième chose la plus importante. Et j'essaie de me limiter entre 3 à 5 tâches maximum pour ma journée, parce qu'au-delà de ça, ben, par expérience, c'est très difficile à accomplir, à moins que ce soit des micro-tâches de 2 minutes chacune. Mm-hmm. Mais ça, c'est un autre outil que je prends dans mon quotidien pour définir ma priorité. Et j'ai justement fait un épisode de podcast sur le sujet qu'on pourra aussi peut-être te proposer dans les liens de cet épisode. Un épisode où est-ce que je propose 6 questions à se poser à tous les jours pour définir la bonne priorité.
Tu m'enverras le lien, puis je le mettrai avec grand plaisir en description du podcast.
Parfait.
Tu vois, moi, j'ai la même façon de procéder que toi avec une question. Par contre, qui est un peu plus vague, du coup, je pense que je vais switcher pour la tienne. Moi, je me demandais qu'est-ce qui ferait que je serais content de ma journée à la fin de la journée, tout simplement. Est-ce que c'est en faisant ça, ça ou ça? Et là, grosso modo, ça qu'on peut réellement éliminer facilement les tâches, on va dire subsidiaires, un peu inutiles qu'on a dans la liste de tâches. Ta question est plus précise, du coup, je pense que je vais opter pour la tienne.
Mais la seule affaire avec ta question, répète-la encore une fois, je suis sûr que je l'ai bien compris.
C'est donc qu'est-ce qui ferait que je serais satisfait de ma journée à la fin de la journée? En fait, il n'y a pas cette notion de priorisation comme toi.
La seule affaire, c'est que vu que toi, tu mets... Je trouve que la question met l'accent sur l'émotion, justement. Qu'est-ce qui ferait que je serais content de ma journée? Mais parfois, disons, pour un salarié... Parfois, ton patron t'a demandé quelque chose et t'as pas envie de le faire. Autrement dit, ça ne va pas te rendre content de faire cette tâche-là.
En fait, t'as raison.
Mais par contre, si ton patron t'a mis une date d'échéance et qu'il t'a dit « il faut absolument que tu me rendes ça sur mon bureau d'ici demain matin », ici, il n'est pas question de content, pas content. C'est plutôt quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui. Et là, ce serait plutôt fournir le truc que mon patron m'a demandé, parce qu'autrement, je risque d'avoir des conséquences, de perdre mon emploi, etc., t'sais.
Ah mais c'est cool, comme ça je pars avec un nouvel outil, donc c'est parfait. ça me va très bien. Et justement, on va rebondir, on arrive quasiment à la fin de l'échange qu'on a tous les deux. On va rebondir à nouveau sur cette notion d'émotion. De mon côté, j'avoue, parfois je prends également des décisions sous le coup de l'émotion, ça peut m'arriver, je suis humain comme tu le dis. Les humains par défaut, on est des êtres émotionnels. Est-ce que toi de ton côté aussi ça t'arrive encore aujourd'hui, malgré tous les outils que tu as en ta possession, de des fois raisonner à l'émotion à 100%?
Bien sûr, on n'est pas parfait... On n'est pas parfait. Moi-même qui enseigne l'organisation, la gestion du temps, j'ai des moments de faiblesse, des moments où est-ce que je manque de discipline, des moments où est-ce que je fais pas la bonne chose. Et c'est drôle parce que hier, en date où est-ce qu'on enregistre cette entrevue, j'ai justement traversé une journée comme ça. J'avais un moment justement de fatigue. Je sais que j'avais pas eu une bonne nuit de sommeil la veille. Automatiquement, le fait que j'avais pas bien dormi, j'avais pas toute ma force mentale, j'avais un peu moins de volonté. Alors, tu vois, moi, j'avais tout mon planning pour la journée. Je savais très bien quelle était ma tâche que je devais faire. Et tu vois, je l'ai pas fait. Parce que, je sais pas, je me sentais fatigué, je le sentais pas. Et j'ai écouté mon émotion qui, elle, me suggérait de faire d'autres petites tâches un peu plus faciles et plus plaisantes. Et ça m'est arrivé et ça m'arrive parfois. Et c'est certain que quand ça nous arrive, ben c'est pas le fun, tu sais, parce que tu sais que t'as pas fait ce que t'aurais dû faire rationnellement, tu sais.
Non mais complètement. Et ça, tu le documentes un peu dans ton journal ou pas du tout? Ce côté ça réellement, j'ai mal dormi, du coup, j'ai moins bien performé le lendemain, tu vois.
Oui, dans le sens, avec mon journal, je ne suis pas quotidien, je suis hebdomadaire. J'écris dans mon journal peut-être 3 à 4 fois par semaine. Donc, dans le contexte de hier, par exemple, je ne l'ai pas documenté, mais c'est vrai que ça serait bien de prendre vraiment une routine, de faire un genre de petit bilan de ma journée là en termes de productivité. Est-ce que j'ai réellement été efficace aujourd'hui? Si oui ou sinon, ben qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, j'aurais pu noter le truc du sommeil.
Tu vois, moi, dans mon journal, je l'ouvre rapidement parce qu'il est numérique. J'en ai un papier et un numérique. Je l'ai deux options. Le papier, c'est plus personnel. Tu vois, je parle un peu aussi de ma vie privée, un peu tout. Et le numérique, c'est que ma vie pro. Et je me pose à chaque fois, 1, 2, 3, 4 questions. La première, ce que j'ai fait. On va dire mon plus grand accomplissement de la journée. Mon deuxième, ce que j'ai appris. Le troisième, ce que je ferai mieux demain. Par exemple, mieux dormir pour toi. Si on prend ton exemple d'hier. Et après, les 3 choses cool qui se sont passées aujourd'hui. Ça me prend 5 minutes à remplir, mais réellement, je vois un peu des patterns des fois qui se décident au jour le jour et ça, c'est intéressant à mettre en place.
Ah, c'est intéressant. Et je trouve que c'est une bonne discipline à mettre. Je sais pas à quelle heure de la journée tu fais ça, mais moi, tu vois, c'est le genre d'outil que j'aimerais faire pour me préparer à aller au lit, dans le sens que ça te permet de prendre du recul, lâcher les technologies un petit peu. Parfois, on est tellement absorbé par notre téléphone, nos réseaux sociaux, on amène ça dans le lit. À la place, sortir ton journal, fermer les distractions et juste faire une petite introspection. En fait, faire le point sur ta journée, je trouve que ce serait une excellente discipline à développer. Que j'essaie de développer d'ailleurs aussi.
C'est vraiment la dernière action que je vais faire avant de fermer l'ordinateur. Après, je passe réellement sous la lecture papier pour justement me reposer, reposer les yeux et puis favoriser le sommeil aussi. Mais effectivement, la dernière action de l'ordinateur, c'est ça, c'est compléter ce petit journal-là et préparer mes 3 tâches pour le lendemain, tu vois. Principal.
Excellent.
Mathieu, on arrive à la fin des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as encore quelques petites minutes à m'accorder pour des questions posées par mes auditeurs via un forum privé? J'aurais dit comme quoi, je t'ai interviewé, j'avais cette chance-là de te recevoir sur mon podcast et j'aurais demandé s'il y avait des questions à te poser. Du coup, j'ai 3 questions qui sont sorties. La première question, donc, c'est doit-on se préoccuper à gérer davantage son attention que son temps pour améliorer sa productivité? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Plus attention ou plus temps?
Les deux. Je pense que c'est absolument les deux. C'est les deux ressources qui sont à notre disposition. Et même, j'en rajouterai une troisième. Là, en fait, la formule de la productivité, c'est le temps multiplié par l'attention, multiplié par l'énergie. Donc, quand on parle d'attention, on parle de concentration. Donc, en fait, t'as beau avoir 3 heures devant toi, si tu n'es pas concentré et si tu n'as pas d'énergie pendant ces 3 heures-là, tu n'accompliras rien. Et tu as beau gérer ton attention, mais si tu n'as pas de temps à ta disposition, ben tu pourras rien faire, même si t'es concentré, tu comprends. Donc, pour moi, c'est à pied d'égalité. Il faut gérer notre temps, notre attention et notre énergie.
Super. Deuxième question, le minimalisme est-il un facteur de productivité? J'aimerais rapidement la corriger la question de façon de parler parce que pour moi le minimalisme c'est réellement toute la vie toi, par rapport à tes habits, par rapport à ton appartement et autres. Moi je parle plus d'essentialisme en matière d'efficacité, je sais pas si tu vois un peu la subtilité entre les deux.
Ouais. Oui, je crois que oui. Pour vous donner un petit exemple rapide qui me vient en tête, par exemple, avoir un espace de travail minimaliste. Ça, justement, j'ai écrit un livre sur le sujet et j'en parle.
C'est vrai.
C'est un facteur de productivité. Avoir un bureau minimaliste où est-ce que t'as rien qui traîne sur la surface, seulement l'essentiel pour faire ton travail. Donc, tes écrans d'ordinateur, ton clavier, ta souris, de quoi écrire, une lampe pour ton bureau, et voilà, c'est un facteur de productivité. À l'inverse, un environnement qui serait pas minimaliste, donc qui serait encombré, oui, ça peut nuire à ta concentration, justement, et ça crée plusieurs sources de distraction dans ta journée. Là, ouais.
Bien sûr. Et l'essentialisme, qu'est-ce que tu en penses, si tu connais, bien évidemment?
Ben, l'essentialisme, être sûr qu'on parle de la même chose, dans le sens d'aller plus,
ouais. C'est plus
droit à l'essentiel, une démarche simplifiée.
En fait, la différence entre l'ampoule et puis le laser, si tu préfères. L'ampoule, elle va se propager partout. Le laser, c'est sur un point focus. La différence, elle est là.
Vraiment, c'est dire oui, non ben à absolument. Tout le monde. Ben oui, là, on arrive plus dans le côté. C'est une autre question plus large, mais tu sais, la notion de focus, là, c'est un terme anglophone, mais vaut mieux faire beaucoup de peu de choses. Concentre-toi sur peu d'activités, mais fais-en beaucoup et excelle dans ces activités-là. Plutôt que d'essayer de faire 8 projets en même temps, fais-en un et fais le meilleur projet du monde.
Et apprendre à dire non en parallèle aux personnes qui vont te solliciter et prendre ton temps pour des choses inutiles aussi.
C'est
ça. La notion d'apprendre à dire non est très importante aujourd'hui, je pense. Mm-hmm. Et enfin, la dernière question qui rejoint un peu les 2 précédentes, donc la question qui est faire mieux, faire plus ou faire plus et mieux?
Faire mieux, faire plus
ou faire plus et mieux. Yes.
Laisse-moi réfléchir.
Vas-y, tu as tout le temps que tu veux.
Je pense, ben moi, j'aurais peut-être tendance à prioriser le faire mieux.
Ouais, j'ai
l'impression que la productivité, souvent une mauvaise conception qu'on a, c'est de tout le temps, on met toujours de la quantité. Productivité égale quantité, beaucoup de choses, faire plus. Je ne suis pas d'accord avec ça et je rebondis sur la question précédente de l'essentialisme. L'essentialisme, c'est faire justement peu, mais faire bien les choses. Donc moi, je suis plus dans cette optique-là de c'est pas grave la quantité. L'important, c'est la qualité de ce que tu fais. C'est préférable plutôt de faire bien une tâche que d'en faire 22 dans ta semaine. Tu comprends?
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Effectivement, si t'es Elon Musk, effectivement, tu voudras toujours faire plus. Parce que t'as des projets, tu veux conquérir Mars et tout, etc. Mais en tant que personne, on va dire normale, l'idée d'être plus productif, plus efficace, c'est gagner du temps pour être plus tranquille le soir avec ses proches, avec sa famille en week-end. En fait, c'est je vois pas ça. L'intérêt de compenser le temps qu'on gagne par de nouvelles activités en plus qui vont se rajouter et qui ne sont pas essentielles. Après, c'est un point de vue, hein. Chacun voit midi à sa porte, mais ouais. En tout cas, c'est mon point de vue.
Absolument.
Ok, et bah Mathieu, j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser, également des questions de ma communauté. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette notion de prise de décision, de côté rationnel versus émotionnel ou autre?
Ça va, je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être juste vraiment renchérir sur le point de ça vaut la peine de prendre le temps d'investir dans sa prise de décision.
Yes.
Comme Jérémy a dit, il faut le voir comme un investissement. Ça, je pense que c'est la clé.
Ok, et ben on va conclure sur ça, sur l'investissement versus la dépense. En tout cas, je te remercie Mathieu, je mettrai tous les liens dont on a parlé ensemble en description du podcast. Également, il me semble, j'ai vu ça passer sur LinkedIn, comme quoi tu vas lancer une conférence en ligne, une formation en ligne en direct, si mes souvenirs sont bons, sur Evernote, qui est justement un outil de prise de notes et donc potentiellement de prise de décision aussi. Très clairement, on peut s'en servir comme tel.
Ouais.
Alors moi, personnellement, c'est pas l'outil dont je me sers, mais je sais que c'est un très très bon outil. Et justement, cette conférence a lieu quand? Je voulais savoir.
C'est le samedi 3 octobre 2020, donc je sais pas en date où les gens samedi vont 3. Écouter l'entrevue. Donc samedi 3 octobre 2020, formation qui va être diffusée en direct, mais avec probablement la possibilité de l'acheter en différé, acheter l'enregistrement par la suite.
Effectivement, le podcast ne sera pas sorti, mais je mettrai le lien de la rediffusion. Tout simplement, puis je peux en parler à ma communauté aussi en parallèle par email, du coup, pour les avertir s'ils sont intéressés ou non de cette conférence-là.
Parfait.
Ok. Merci. Et ben, merci pour tout, Mathieu. Et puis, à très bientôt pour d'autres sujets, d'autres interventions, si jamais t'es intéressé.
Avec plaisir. Merci, Jérémy.
Passe une belle journée. Salut. Et ben, super.
Yes. Parfait.
On est bon. On est bon. Attends, je coupe l'enregistrement. Et voilà, le podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que j'ai pris de plaisir à échanger moi avec Mathieu. Vu que tu es encore là à m'écouter, c'est que tu fais partie des rares auditeurs les plus motivés qui veulent réellement aller au bout des choses, qui veulent réellement comprendre un sujet dans sa globalité. Donc, je tiens à te rappeler que la semaine prochaine se déroule la fameuse, la célèbre j'ai envie de dire maintenant, session questions et réponses. Alors, si tu as la moindre question sur les mécanismes du cerveau qui t'empêchent de bien décider, ou encore si tu as des questions sur la mise en place de modèles mentaux et de stratégies mentales précises, n'hésite surtout pas à me poser ces questions, à me les envoyer. Et pour ça, je t'ai préparé un petit formulaire, tout simple, que tu trouveras également en description de ce podcast, pour accéder, justement, à l'espace d'expression que je t'ai réservé pour m'envoyer tes propres questions. Maintenant, j'en ai terminé avec cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir, à te souhaiter une belle semaine, pleine de réussite, pleine de surperformance. Ciao !